Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous, merci de me retrouver sur la Voix des Arts pour rencontrer encore les artistes femmes, créatrices, qui ne cessent d'arriver à moi à la file les unes après les autres. Et comme vous vous en êtes rendu compte, au bout de cette 30e émission sur le sujet, je ne peux faire autrement que vous les présenter puisque je me suis fixé ce petit challenge de réhabiliter la gente féminine sur la scène artistique. Entre nous soit dit, peu m'importe pour moi dans l'absolu que l'artiste soit un homme ou une femme du moment qu'il ait quelque chose à dire et que ce quelque chose soit pertinent. Mais, car il y a toujours un mais, vu le contexte, les réflexions que j'ai entendues sur le manque de créativité féminine à une certaine époque de ma vie, les constats que j'ai faits sur l'absence dans le passé de références solides pour contrebalancer les présences masculines. Bon, j'ai relié tout cela chez moi à un besoin de justice et d'équité, n'ayons pas peur des mots, pour que je décide de réhabiliter leur mémoire. Et je me rends compte que j'ai bien fait, déjà pour moi, car depuis que je fais ces recherches, j'apprends beaucoup. Je me rends compte que non seulement elles sont plus nombreuses que ce que moi-même je pensais, mais qu'en plus, certaines ont révélé de véritables talents, ce dont je ne doutais pas, à l'égal de bien des hommes connus et reconnus, qu'elles se sont investies pleinement de leur art, malgré les contraintes sociales dues à leur sexe, et de ce fait, elles ont participé activement à l'évolution des sociétés, parfois au prix de luttes et de souffrances, pour affirmer qu'elles étaient des personnes humaines à part entière. Et malgré l'ombre qui les a recouverts quelques siècles, elles ont insufflé aux hommes des idées qui ont été suffisamment fortes et pertinentes pour que ceux-ci, déjà dans la lumière, puissent encore rayonner davantage. Et même certains, vu les contextes, se sont appropriés leur création. Donc voilà ce que j'avais à dire avant de reprendre mon petit périple avec vous. Et en compagnie de ces dames, alors je vous ai déjà prévenu que je ne continuerai pas sur ce sujet au-delà de la moitié du XXe siècle. La société a changé, elles sont plus visibles quand même, malgré des problèmes encore, mais le monde artistique s'est transformé en bon et en moins bon, mais là, il s'agit d'un autre sujet. Alors la Voix des Arts continuera avec des créatrices, des artistes femmes, mais aussi des hommes, dans la mesure où j'estime que mes propos seront pertinents et il y aura d'autres sujets encore en relation, bien évidemment, avec l'artistique. Alors la dernière émission, nous étions en compagnie d'un petit panel hétéroclite d'artistes étrangères, surtout des peintres, en musique avec des compositrices. Il y eut encore des Américaines, puis des femmes du Nord, que je suis allée chercher pour un petit peu de fraîcheur, pas loin des fjords ou des plaines glacées de Norvège ou de Suède, afin que vous fassiez leur connaissance. Mais nous allons continuer en changeant complètement d'atmosphère. Allez, un petit voyage en Orient pour suivre notre nouvelle artiste, en commençant par la Turquie, où elle est née, pour la suivre en Irak, où elle s'est mariée, et terminer notre périple en Israël, où elle est décédée. Eh bien voilà, voici venir à nous Farel Nissa Zaid, qui est une peintre née en 1901, au début du XXe siècle, au sein d'une grande famille turque. Son père était un diplomate ottoman, sa mère était crétoise. Farel Nissa Zaid est ensuite devenue princesse par son mariage avec un ambassadeur d'Irak, frère de surcroît du roi Faisal Ier. Donc elle est issue d'un milieu privilégié qui sans doute fut propice à l'éclosion de son talent. Car ce sera l'une des premières femmes à s'inscrire à l'Académie des Beaux-Arts d'Istanbul en 1919. Alors elle aussi s'adonne pleinement à son art, illustrant ses voyages avec de nombreux croquis. Elle s'arrêtera un moment à Paris, comme tant d'autres, vous êtes au courant maintenant. Ce sera pour elle à l'Académie Ranson de Montparnasse. Et c'est là qu'influencé par l'esprit anticonformiste et novateur qui circule à l'époque à Paris, qu'elle délaissera l'académisme pour se tourner vers ces formes d'art novatrices que l'on rassemble sous le vocable de modernisme, ce que je vous ai expliqué dans bien des émissions précédentes, dès que la fin du 19e siècle fut abordée. Alors elle continuera toujours de voyager, de s'inspirer, de créer, pour revenir s'installer à Istanbul dans les années 40 et intégrer par la suite le mouvement d'avant-garde des Grubu, une association de peintres novateurs ottomans dont les objectifs, il semblerait, étaient d'apporter également un regard nouveau sur la politique, sur la société et la politique en Turquie. Enfin, et quoi qu'il en soit, elle sera apparemment la seule femme turque à rejoindre ce groupe. Alors par la suite, elle rencontrera un bon succès personnel après la Seconde Guerre mondiale. Elle se tournera vers cette forme d'art intitulée l'abstraction lyrique. Alors j'avais abordé ces sujets, ces nouveaux courants dans les premières émissions de La Voix des Arts. Bon, c'est un peu compliqué d'en donner une définition simple. Qui dit abstraction laisse entendre qu'il s'agit de faire abstraction d'un objet reconnaissable sur une toile, que ce soit une personne, un paysage, ce qui veut dire que l'artiste s'affranchit d'une représentation figurative ou narrative pour donner forme plutôt à une émotion intérieure. N'est-ce pas, Elisa? J'essaye de stimuler Elisa qui est dans le studio. Alors l'abstraction lyrique s'attachera davantage à libérer la vie et la spontanéité née d'une émotion forte. Et c'est le peintre Vassili Kandinsky, dont la carrière s'est déroulée de la fin du 19e siècle au milieu du 20e siècle, qui a été reconnu comme le père de l'abstraction lyrique. Et il a d'ailleurs écrit beaucoup d'ouvrages sur la peinture où il explique ses théories. Et j'avais conseillé l'un de ses livres intitulé « Du spirituel dans l'art et dans la peinture » en particulier pour approfondir ces sujets, si cela vous intéresse, bien évidemment. Alors en ce qui concerne Farenissa Zeit, c'est l'abstraction dite lyrique qui mobilisera davantage son intérêt. Elle peindra de très grandes toiles où se mélangent des influences issues de tous ces croisements culturels, byzantines, islamiques, occidentales. En lien avec la France et notamment Paris, elle deviendra un membre important de la Nouvelle École de Paris, intitulée ainsi car elle représente les artistes étrangers à Paris. Sa carrière sera également soutenue par des galeristes, notamment féminines, comme entre autres Colette Ayendi, Katia Granoff, Dina Verny. Dina Verny était la muse du sculpteur Mayol et elle est devenue également galeriste par la suite. À Londres, elle sera la première femme à bénéficier d'une exposition individuelle à l'Institute of Contemporary Art. Et c'est ainsi qu'elle sera remarquée et valorisée par des critiques, notamment par l'artiste poète surréaliste André Breton. Alors nous comprenons qu'elle peut bénéficier de soutien grâce à sa position sociale, cependant son art est éclectique, car c'est une femme curieuse qui semble passionnée par son activité, qu'elle sert avec originalité et implication, et elle sait s'ouvrir à des perspectives nouvelles. Elle sera donc influencée par les théories novatrices du peintre Vassili Kandinsky, cité plus haut, pour ensuite prendre de nouvelles voies, dont une bien personnelle et surtout insolite, puisqu'elle créera les paléocristallos. Alors que sont les paléocristallos, dont l'idée lui serait venue en cuisinant une dinde? Comme quoi tous les chemins mènent non pas à Rome, mais à l'art et à la création, même si ce n'est que par l'intermédiaire d'un simple volatile dans une cocotte. Alors les paléocristallos sont des compositions insolites en volume, constituées par de véritables aux os d'animaux peints et combinés avec des résines, du polyester et d'autres éléments, et présentés sur des supports pivotants et éclairés. Et André Malraux, sollicité, y aurait trouvé un intérêt artistique. Alors la carrière de Farel Nissa Zeitz se poursuivra jusqu'à la moitié du XXe siècle. Elle participera en quelque sorte à diffuser des formes d'art novatrices, notamment en Jordanie. Et on peut dire que c'est la première femme orientale contemporaine dont la carrière aura été reconnue aussi bien dans son pays qu'à l'international par les institutions artistiques en place. Alors sur ces bonnes paroles, je me suis dit que peut-être, à force de chercher, je finirai bien par trouver une femme compositrice orientale, en essayant de rester à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire la première moitié du XXe siècle. Mais je me rends compte que je suis une grande optimiste au fond. Surtout que de sources quasiment sûres, selon certains pays orientaux, surtout sous gestion islamiste, les femmes ont des droits extrêmement limités et certaines ne peuvent même pas chanter en public, surtout s'il y a des hommes. Et c'est le cas en Iran cette dernière décennie, puisqu'une musicienne nommée Sarah Najafi en a parlé par l'intermédiaire de TV5 Monde. Alors par contre, en Iran, j'ai rencontré une figure majeure de la poésie contemporaine persane sous les traits d'une femme nommée Simin Behbahani, née en 1927 à Téhéran et qui est décédée en 1914. Alors elle est issue d'une famille de littérateurs, d'écrivains. Elle luttera contre la censure en Iran après la révolution islamique de 1979 et sera censurée de toute façon pendant une dizaine d'années. Période pendant laquelle elle s'orientera vers le militantisme politique en défendant les droits de l'homme et surtout ceux de la femme. Elle recevra des prix, notamment pour son implication. C'est la médaille Karl von Ossietzky par la Ligue internationale des droits de l'homme et au travers d'une campagne pour recueillir 1 million de signatures afin de changer la législation iranienne aussi en faveur des femmes. Et le prix Simone de Beauvoir qui récompense à la fois l'implication sociale et le parcours artistique. Alors en cherchant, j'ai vu que le CDMC, c'est-à-dire le Centre de documentation de la musique contemporaine, avait organisé des journées internationales à Paris, à l'UNESCO, intitulées « Être compositrice », qui se sont déroulées en mars 2019 avec des spécialistes professionnels, musicologues, compositeurs, compositrices, interprètes, où étaient conviés différents pays. Bon, la France, bien sûr, mais aussi le Brésil, la République tchèque, la Slovaquie, l'Allemagne, l'Autriche, la Chine. Bon, je n'étais pas invitée pour y assister, mais j'ai découvert ces journées sur Internet, ce qui me conforte dans le fait que la composition au féminin suscite quand même débat à notre époque pour représenter aussi des formes musicales contemporaines. Bon, apparemment, il y a un historique, mais surtout pour le comparer à aujourd'hui, avec beaucoup de questionnements sur les cultures des différents pays, la situation de la femme et notamment celle qui pratique la musique. Voilà pour ce petit intermède informatif. Alors en règle générale, mes recherches sur les créatrices orientales m'ont confrontée à beaucoup d'obstacles, en mettant surtout en évidence des situations politiques et sociales conflictuelles dans lesquelles les femmes apparaissent oppressées et en servitude, et dont les souffrances et le manque d'expression, et notamment artistique, sont révélées au travers de témoignages recueillis par des médias télévisés, la presse, etc. Alors mes pérégrinations m'ont amenée en Israël, où j'ai rencontré une femme compositrice, pianiste et aussi peintre et publiciste juive nommée Verdina Shlonsky. Elle est née en Russie en 1905 et décédée à Tel Aviv en 1990. et sa famille a immigré en Palestine en 1921. Par contre, Verdina Chlonsky a poursuivi ses études musicales en Europe et elle a notamment étudié la composition avec la célèbre professeure Nadia Boulanger à Paris. Et il semblerait qu'elle ait été précoce car elle se serait mise au piano dès l'âge de 5 ans et aurait tout de suite improvisé et composé. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Ceci dit, après ses études européennes, quand elle rentrera en Palestine, elle intégrera la faculté de l'Académie de musique de Tel Aviv. Et il est à noter qu'elle est sœur d'une chanteuse lyrique, Judith Chlonsky, connue sous le nom de Nina Valéry et d'un poète, Abraham Chlonsky. Alors, cette compositrice a été récompensée pour son travail, un prix à Paris lors d'un concours en 1931. L'une de ses compositions, intitulée Quartet for String, a été primée au concours Béla Bartók de Budapest en 1949. C'est une personne dont la production est plutôt importante. Elle a écrit des symphonies, de la musique de chambre, de nombreuses chansons, cantates, concertos. Elle a également publié de nombreux écrits sur la musique. Et aussi, pour que vous en ayez un aperçu, eh bien je vous propose d'écouter ce que j'ai trouvé, une chanson composée par Verdina Chlonsky. Ces créatrices, ben je vous ai fait voyager un peu partout dans le monde, hein, l'Europe avec les Françaises, des Allemandes, des Autrichiennes, des Anglaises, vers les brumes du Nord, ben ce sont des pays comme la Hollande, la Suède, la Norvège, un petit tour en Amérique, du Nord on part au Sud, au Mexique, en Argentine, on saute vers le Brésil, etc. Puis c'est la Serbie, la Roumanie. On vient au gré des rencontres, de mon humeur aussi, sans doute. Et même une Chinoise, personnage atypique et plutôt pathétique, s'est retrouvée sous le projecteur que j'ai dirigé sur elle. Et ce n'est pas terminé, du moins pas encore. Alors je viens de rencontrer une Portugaise. Il était peut-être temps d'aller voir par là-bas comment ça se passe, même si elle aussi a débarqué à Paris pour suivre une formation de sculpture avec le sculpteur Antoine Bourdel à l'Académie de la Grande Chaumière pour s'orienter ensuite vers la peinture. Elle est repartie au Portugal, puis au Brésil, pour revenir à Paris, où elle a été naturalisée française. Elle se nomme Maria Helena Vieira da Silva. Elle est née en 1908 à Lisbonne. Et c'est la galeriste française parisienne, Jeanne Bucher, qui la fera connaître et qui accueillera dans ses galeries bien d'autres artistes, dont les plus connus sont Picasso, Kandinsky, John Miró, pour ne citer que. Alors Maria Helena Vieira da Silva épousera un peintre hongrois nommé Árpád Széchenyi, toujours du mal à prononcer, avec qui elle vivra toute une vie jusqu'au décès de celui-ci en 1985. Elle suivra un beau parcours artistique ponctué de nombreux prix, dont le Grand Prix national des arts du gouvernement français. Elle a également été nommée chevalier de la Légion d'honneur, commandeur des arts et des lettres, une renommée internationale et est maintenant exposée au Guggenheim Museum de New York, à la Tate Modern de Londres, au Centre Pompidou à Paris et un musée lui est consacré à Lisbonne ainsi qu'à son mari. Et cette dame est décédée en 1992 à 84 ans. Alors voyons un peu de près ses créations, ses peintures fort appréciées du poète René Char qui a quelque peu discouru sur elle. Les critiques ou amateurs d'art qui abordent son travail utilisent des mots comme réseau, labyrinthe. À premier regard, il est vrai que ses peintures apparaissent comme des entrelacs de fils ou de réseaux qui, lorsque l'on regarde plus attentivement, sont savamment organisés de manière à proposer une composition originale. Alors, il est question de paysagisme abstrait ou d'abstraction paysagiste. C'est de la théorie de l'art, toujours un peu difficile à aborder avec simplicité, car il y a des ramifications qui demandent encore et beaucoup de développement pour saisir totalement de quoi il s'agit. Ce qu'il faut retenir dans l'abstraction, c'est que la représentation d'un objet identifiable est niée au profit de ce qui est suscité, inspiré par l'observation de cet objet. Et l'artiste transpose sur sa toile à sa manière ce qu'il a reçu, souvent aussi de l'extérieur, qu'il alchimise, on va dire cela. Alors ici, il y aurait référence à la nature, mais c'est ce qui trompe, car paysage revêt une signification bien plus large que ce qui est offert par un simple regard sur la nature. Il y a des paysages urbains, des paysages intérieurs, oniriques, etc. Alors restons dans notre sujet de maintenant qui tourne autour de l'art et de la création au féminin et l'œuvre de Maria Helena Vieira da Silva a été mise en rapport pour la plupart avec l'abstraction paysagiste. Et vous pouvez jeter un coup d'œil et lire ce qui est dit sur le sujet. Nous avons la chance en France de bénéficier de suffisamment de moyens de diffusion de la culture pour nous satisfaire. Il y a Internet peut-être, mais aussi des bibliothèques, des librairies entre autres. Vous en avez en Périgord et chez ta maman qui est où ?
L'Artothèque de
Trélissac, par exemple, si vous êtes à Périgueux ou à Trélissac, dans les environs. Alors pour rester encore au Portugal, je me suis dit qu'une compositrice portugaise serait la bienvenue et je me suis mise en quête de cette compositrice. En chemin, évidemment, j'ai croisé les chanteuses de Fado, notamment comme Amalia Rodriguez et finalement j'ai trouvé ma compositrice nommée Berta Alves de Souza qui est née en 1906 en Belgique mais revenue assez vite au Portugal, à Porto, d'où sa famille est originaire et où elle est décédée à l'âge avancé de 91 ans. Alors c'est une vie complète de musicienne. D'abord diplômée du conservatoire de Porto, elle a poursuivi ses études avec de nombreux professeurs au Portugal, bien sûr, mais aussi à Paris et même en Allemagne, à Berlin, pour la composition. Et le piano hein, aussi, la direction d'orchestre. Et par la suite, à 40 ans, elle deviendra professeure de musique de chambre au Conservatoire de musique de Porto en 1946. Alors elle continuera de se perfectionner en piano et participera à de nombreux concerts en tant que soliste ou accompagnatrice. Et dans le cadre de développement culturel, elle donnera des conférences et sera aussi critique musicale pour un journal. Alors sa musique est classée dans les musiques de chambre, musique symphonique ou de chorale. Et je vous propose d'écouter ce que j'ai trouvé, qui est une musique assez grave, plutôt classique. Et il s'agit d'un prélude. Et place maintenant à Berta Alves de Souza. Eh bien, nous terminons cette émission de La Voix des Arts sur une note musicale. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour une émission prochaine, peut-être au Portugal d'ailleurs. Nous verrons où mes pérégrinations me mèneront. Ce sera la surprise. J'espère en tout cas avoir nourri votre curiosité. Merci de votre écoute. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.